Chapitre 34e, la nuit de Pâques. Dans la primitive Église, aucune fête n'était célébrée avec plus de solennité que la fête de la résurrection. C'était comme le sceau de l'œuvre de la rédemption. Les préparatifs, qui aujourd'hui se font dans la matinée du samedi saint, avec ses modifications de forme, qui viennent de ce que le baptême des catéchumènes est tombé en désuétude maintenant que l'on baptise les nouveau-nés, ces préparatifs, dis-je, la bénédiction du nouveau feu, du cierge pascal et des fonts baptismaux, avaient lieu dans la nuit de Pâques au milieu de tous les fidèles réunis. D'abord, une obscurité profonde régnait dans la maison de Dieu. Tous les cierges étaient éteints, aucune lampe ne brillait dans le sanctuaire. Le Christ est dans le tombeau. Les ombres de la mort couvrent le monde coupable, et découragé, le cœur tremble dans un pénible sentiment de doute au souvenir de ses fautes. Les psaumes de la pénitence, récité sur un ton sombre et monotone, exprime ce sentiment. Mais le tombeau éclate, le feu de l'amour brille, il veut brûler. Les portes de la maison de Dieu s'ouvrent et un cierge allumé au nouveau feu, en dehors de l'enceinte sacrée, est apporté en procession solennelle et salué avec humilité et avec joie par le cri trois fois répété « Lumière du Christ ». Les cœurs se sentent soulagés, l'inquiétude et l'attente se dissipent. La lumière du monde n'est pas éteinte. L'amour divin triomphe de la mort. Il vit. Il se fait sentir au sein même de ce monde de cendres et de poussière. Le cierge pascal est son symbole. On l'allume, il brûle. Un chant de gloire s'exhale avec transport et invite tous les anges et tous les hommes à célébrer le triomphe de l'amour divin. Mais le but de cet amour est l'union mystérieuse de l'homme-Dieu avec l'humanité réconciliée et sanctifiée, union qui se consomme dans son sang par les sacrements du baptême et de l'Eucharistie. Les catéchumènes s'avancent en longue file vers la chapelle baptismale. Les femmes marchent les premières, les hommes viennent ensuite. Ils se comptent quelquefois par milliers. Après la sainte cérémonie, ils reçoivent la robe blanche des néophytes et le pain de la vie éternelle. Cette fête, si belle, si attachante, remplissait la nuit de Pâques et préparait dignement la solennité de ce grand jour. L'attente était si grande à Constantinople que la piété avec laquelle les fidèles se disposaient à cette grande fête de la résurrection était troublée par les plus vives inquiétudes. On se racontait que l'empereur avait paru à Sainte-Sophie dans la matinée du samedi saint et que, ayant vu le patriarche, il lui avait donné l'ordre de s'éloigner. Mais Chrysostome avait refusé de s'y soumettre. Ses ennemis devaient être bien puissants et bien acharnés. Telle était la conclusion qu'on tirait de ce fait, car l'empereur commanda aussitôt à quelques personnes de sa suite d'entourer le patriarche et de le reconduire à son palais, ce qui fut exécuté. Et maintenant, Chrysostome oserait-il célébrer la fête? Et s'il en avait le courage, oserait-on le troubler dans l'exercice de son saint ministère? Les diaconesses Olympia, Pentadia et Procla, avaient inspiré à leur catéchumène un tel esprit de pénitence et de dévotion qu'elles virent approcher la nuit de Pâques avec le calme le plus parfait et sans s'inquiéter des bruits effrayants qui parvenaient jusqu'à leurs oreilles. « Je veux être chrétienne, » disait Flora, « tout le reste m'est indifférent. » Gunhild soupirait et enviait presque la jeune fille calme et silencieuse pour qui le monde extérieur était mort tout entier. Elle n'avait pu arriver tout à fait à une résolution aussi absolue. Le monde est puissant. Il suffit qu'on vive au milieu de lui sans vivre pour lui, pour que la liberté cesse d'être parfaite et soit légèrement enchaînée. Mais ce n'était qu'un faible nuage qui passait sur sa joie vive et radieuse comme les rayons du soleil, et sa volonté se détournait des souvenirs de son père, de sa nation, de l'impératrice et de toutes les autres pensées, pour se porter sur les dangers de l'Église et sur son profond isolement personnel. J'ai toujours été seul, se dit-elle. Je me suis toujours sentie isolée, sans famille, sans patrie, sans foyer, depuis que j'étais capable d'un sentiment. Vienne maintenant l'abandon extérieur, et le Seigneur de toute grâce me rendra de plus en plus facile l'accomplissement du désir que j'ai de m'attacher à lui seul, de le suivre dans la voie qu'il a choisie pour moi et dans laquelle il guidera mes faibles pas. Eugénius, de son côté, faisait ses plans. Il voulait profiter de l'agitation commune pour enlever Gunhild. Il n'était pas difficile de provoquer un tumulte sous un prétexte quelconque. Les ennemis du patriarche avait eu le soin de réunir à Constantinople des troupes de soldats thraces, nouvellement enrôlées et placées sous les ordres d'un chef de leur parti. Ce chef s'appelait Lucius. C'était un ami d'Eugénius et par conséquent disposé à lui prêter secours. Eugénius crut que la nuit de Pâques était le moment le plus convenable pour l'exécution de son plan. Il représenta à son vieil oncle, l'archiprêtre Arsace, la nécessité d'en finir une bonne fois et de ne pas laisser se prolonger cet état de division déplorable qui, grâce à l'obstination du patriarche déposé à rester sur son siège, amènerait un schisme. Puisque cet entêté de Chrysostome ne voulait pas se soumettre aux ordres de l'empereur et qu'il avait déclaré que la force pourrait seule le séparer de son église, il fallait donc employer la force et le transporter hors de la ville le plus tôt possible. Très bien, mais où ? L'impératrice a-t-elle fait connaître ses intentions à cet égard ? Demanda Arsace. Autant que je puis savoir, on veut l'exiler dans la petite Arménie. Au pied du mont Taurus ? Vraiment, c'est un triste lieu d'exil. Pas pour un amant de la vie ascétique, répondit Eugénius avec ironie. Il trouvera là toutes les occasions possibles de pratiquer la mortification. Mais vous, vénérable père, en votre qualité d'archiprêtre et de véritable occupant du siège patriarchal, vous êtes obligé de tenir la main à l'exécution des ordres impériaux. Vous avez raison, mon fils, mais les ordres changent souvent. Raison de plus pour se hâter d'exécuter ceci, dit Eugénius d'un ton pressant. Et si ma conduite paraît sage aujourd'hui, et que demain on la traite d'attentat ? Demanda le vieillard d'un air soucieux. Alors la chose sera faite, et c'est l'important. Mais elle peut me faire perdre le siège patriarchal, mon fils, dit Arsace. Rien n'est impossible avec le caractère chancelant de l'impératrice. Je vous en prie, vénérable père, reprit Eugénius avec une insistance des plus pressantes. Pesez bien ce que je vais vous dire en toute confiance. Sévérian est en grande faveur auprès de l'impératrice. Je le sais, répondit Arsace, et il la mérite, car il est par son courage et sa persévérance le soutien du parti bien-pensant à la tête duquel se trouve l'impératrice. Mais savez-vous aussi, vénérable père, que l'impératrice n'a rien de plus à cœur que de donner pour successeur à Chrysostome ce même Sévérian. Je l'ai entendu dire, mon fils, et je vous répète que j'estime l'évêque de Gabala pour ses excellentes qualités et que je partage la bonne opinion qu'en a l'impératrice, mais jamais elle n'osera faire ce pas. Je voudrais savoir ce qui est capable de la faire retenir quand elle s'est mise en tête de faire quelque chose, fit Eugénius avec impatience. Jamais elle n'osera placer dans la chaire de Sainte Sophie un prédicateur étranger qui n'a point perdu son accent syriaque, dit Arsace d'un ton fortement convaincu. « Vénérable père, fit Eugénius de plus en plus impatienté, si Sévérian devient notre patriarche, il s'occupera des affaires de l'État au lieu de prêcher. Et maintenant, permettez-moi de vous dire en deux mots que Sévérian, comme l'impératrice, voit dans votre hésitation un mélange de faiblesse et d'inertie, un reste d'affection pour Chrysostome, un manque de dévouement pour l'empereur. »«
Manque de dévouement pour l'empereur ?»
balbutia Arsace d'un ton plein d'effroi. Oui, et pour l'impératrice elle-même.
Mais, mon fils, pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout cela d'abord ?
Fit Arsace avec stupeur. Vous parlez, et vous laissez l'essentiel de côté. Ce soupçon terrible, épouvantable de l'impératrice doit être sur le champ démenti par les faits.
Allez trouver notre ami Anthémius. Faites-vous donner l'ordre qu'il faut pour avoir les traces à votre disposition, et puis faites ce qui convient rapidement. Marchons. « Marchons, et que ce soupçon ne puisse plus m'atteindre !»
Plein d'une maligne joie, Eugénius se rendit auprès du préfet du palais, qu'il réjouit en lui disant qu'il ne fallait pas hésiter à faire Chrysostome prisonnier, puisqu'il était impossible que les offices de la fête de Pâques fussent célébrés par un patriarche déposé. « Donnez-moi donc à cet effet vos soldats thraces, » conclut Eugénius. « Ils sont étrangers et païens pour la plupart. » et par conséquent sans sympathie pour le peuple et pour le patriarche.
Comme vous savez ce que vous avez à faire, répondit Anthémius, employez les thraces sous le commandement de Lucius. Mais ce sont des hommes farouches, cruels, et j'espère que vous préviendrez toute effusion de sang inutile.
Pas une goutte de sang ne doit couler, fit Eugénius. Nous arriverons à notre but sans cela.
Il était 3 heures après minuit,
et sainte Sophie regorgeait de fidèles. Les cierges pascales étaient allumés. Les prêtres chantaient les psaumes dans le chœur et toute l'assistance pieuse alternait avec eux. Le baptême des catéchumènes du sexe féminin était sur le point de toucher à sa fin, car déjà dans le grand chœur, les diacres faisaient les préparatifs pour la distribution du pain eucharistique. On attendait avec une pieuse émotion le moment où ces longues files de néophytes vêtus de blanc, sortant des eaux baptismales, allaient s'avancer pour recevoir la Sainte Communion, passant ainsi d'un sacrement à l'autre. Tout d'un coup, il se fit dans la foule un certain mouvement de trouble. « Ce sont les néophytes qui viennent », telle fut la pensée du plus grand nombre. Mais le désordre alla croissant, des pas menaçants. Un cliquetis d'armes se firent entendre d'abord dans l'avant-cour, puis dans le vestibule, et les soldats traces se précipitèrent brutalement dans la maison de Dieu. Ce fut un désordre, une agitation extrême parmi les fidèles. Les uns voulaient fuir, les autres voulaient rester, d'autres voulaient se cacher dans les chapelles. Les plaintes, les gémissements, les cris d'effroi se mêlaient aux jurements et aux malédictions des traces qui, les pieds nus, la lance au poing, se jetaient sur l'assistance pour s'ouvrir un passage et renversaient à terre ceux qui ne pouvaient assez tôt leur faire place. Des scènes horribles se passèrent au milieu du tumulte. Les personnes blessées, ensanglantées, défaillantes, entravaient les fuyards, tandis que les mères cherchaient à protéger leurs enfants et les maris leurs femmes. Les soldats avançaient toujours. Ils pénétrèrent jusque dans le chœur, firent prisonnier les prêtres et les diacres, pensant que Chrysostome, qu'ils ne connaissaient pas, pouvait se trouver parmi eux. Ensuite, ils dépouillèrent le tabernacle et enlevèrent les vases sacrés comme un butin légitime. Une autre troupe de soldats s'avançait du côté de la chapelle baptismale. Lucius la conduisait lui-même, car il était probable que Chrysostome s'y trouvait, et Lucius ne voulait pas qu'il tombât entre les mains de ses farouches soldats. À côté de Lucius marchait un jeune homme qui semblait porter pour la première fois ses armes et son habit militaire. Et qui paraissait être là pour donner des instructions plutôt que pour recevoir et exécuter des ordres. Le baptême des catéchumènes femmes était achevé quand le tumulte éclata. Au lieu de se rendre dans l'église, elles se réfugièrent toutes dans la chapelle baptismale et dans les pièces où elles étaient préparées à la sainte cérémonie, et instinctivement, comme de tendres agneaux qui cherchent protection auprès de leur pasteur, elles se serrèrent autour du patriarche. De l'autre côté arrivèrent les catéchumènes hommes, qui jusqu'à ce moment étaient restés en prière dans une place à part. Quand ils virent que l'église était envahie par les soldats, ils se jetèrent au devant d'eux pour les repousser par leur nombre et protéger les femmes et les prêtres. Mais les traces se servirent de leurs armes. Le sang coula et jaillit jusque dans l'eau baptismale. Dans ce moment affreux, quelques prêtres et quelques diacres se jetèrent entre les néophytes et les soldats pour les séparer. Mais ils furent blessés et repoussés à leur tour. Les soldats cherchèrent à arriver jusqu'à Chrysostome, qui, entouré d'une masse compacte de prêtres et de femmes voilées, se tenait dans le fond de la chapelle. « Le voilà, ce petit homme avec la mitre. Saisissez-le !» cria Lucius à ses hommes. Au même instant, la mitre fut enlevée de la tête du patriarche par la main prompte et légère d'une femme. « La voilà, c'est elle !» fit le jeune soldat qui se tenait auprès de Lucius. « Qui, quoi ?» demanda Lucius. « Saisissez le patriarche, le traître, l'excommunié !» cria le jeune soldat en cherchant à s'ouvrir de vive force un passage pour arriver jusqu'à la femme grande et lancée au port noble et distingué, qui, couverte d'un voile épais, se tenait tranquille derrière Chrysostome. Il connaissait ce calme fier, ce maintien royal, cette présence d'esprit. N'ayant qu'elle en vue, il se fit place à l'aide de quelques soldats qui se servirent du bois de leurs lances pour se frayer un chemin, en renversant à droite et à gauche les femmes qui leur faisaient obstacle. Il ne voyait qu'elle dans cette horrible confusion. Il ne vit pas qu'un soldat, aveuglé par la fureur, porta un coup terrible au patriarche. Il ne vit pas que le coup fut paré par une femme qui le reçut dans la poitrine. Il ne la vit pas s'affaisser en poussant un léger gémissement. Il vit seulement que la grande femme, qu'il ne perdait pas de vue, fit un mouvement et s'inclina en avant comme pour protéger Chrysostome ou pour soutenir celle qui tombait. À ce moment, Lucius était arrivé jusqu'au patriarche et Eugénius, déguisé en soldat, avait atteint sa victime. Il la tira à lui, la prit dans ses bras, l'emporta par une porte latérale dans une petite cour intérieure et la plaça, à demi-morte de frayeur, dans une chaise fermée dont les porteurs l'attendaient. Partez. Hâtez-vous, leur dit-il d'un ton de maître. Elle est maintenant sans connaissance. Que Phoebe la serve comme une reine, mais qu'elle veille strictement sur elle.
La chaise s'éloigna, et Eugénius rentra dans l'église profanée pour s'assurer que le patriarche était bien entre les mains de Lucius.
C'était fait. Les soldats s'étaient éloignés, le tumulte s'apaisait, la foule s'éclaircissait. Quelques prêtres eurent la pensée de conduire les catéchumènes hommes dans les thermes de l'empereur Constantin, où ils administrèrent le Saint-Baptême à un demi-millier de néophytes. Les blessés furent transportés hors de l'église. On lava les taches de sang, on ramassa les débris de vases et les lambeaux de vêtements. Eugénius tressaillit involontairement à la vue de cette horrible dévastation du lieu saint. En ce moment, un groupe de femmes sortait de la chapelle baptismale. Quatre d'entre elles portaient un grand linceul, sur lequel était étendue une jeune fille inanimée. Eugénius détourna les yeux.
« C'est affreux, murmura-t-il, qu'une femme ait dû y perdre la vie.
Mais pourquoi n'a-t-on pas cédé? Nous n'avions vu que lui et elle. »
Le triste cortège disparut.
« La pauvre enfant, dit une voix qui arriva aux oreilles d'Eugénius. « Ne la plaignez pas, dit une autre, elle quitte la vie au sortir des eaux purifiantes du baptême.
Oh, ne plaignez pas cette âme privilégiée.
Qui peut-elle être? Est-elle jeune encore? Elle a 15 ans, c'est Flora, la fille d'un méchant usurier, le changeur Dioscor, mon voisin.
Un lys aussi pur a-t-il pu fleurir dans un tel bourbier?
Remercions Dieu d'avoir fait croître ce beau lys au milieu des épines, pour servir de modèle à la virginité.
Eugénius se hâta de sortir. Une voix intérieure lui criait « Tu es cause de cette mort. C'est toi qui as occasionné ces horribles scènes. »
Mais c'était pour elle.